Ouais, mon lieutenant.
Seconde.
Souvenez-vous, il y a un mois, nous avions commencé une émission sur la méthanisation. Nous recevions Sébastien Almagro, chercheur en biochimie. Il répondait à nos questions pour nous éclairer sur ce qu'était la méthanisation et ce que cela engendrait. Et nous en profitions également pour diffuser certaines questions qu'on avait pu enregistrer lors d'une conférence à Puisieux de personnes vivant ou allant vivre à côté, à proximité d'un méthaniseur. Du coup, c'est reparti.
On est prêt ? Oui, mon lieutenant. Alors, à l'attaque !
On est en train de l'appauvrir, ce carbone du sol. Et d'ailleurs, on observe depuis les années 60 un appauvrissement qui est dû au changement de méthode agricole, qui est relativement inquiétant. Moi, j'ai vu des données, notamment pour la région Bretagne. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a toujours moins de carbone. Après, on nous indique que le carbone de l'air est capté par les végétaux, et ça, c'est bien, et c'est pour ça que la méthanisation, c'est cool. On prend le carbone de l'air, on en fait du gaz, et ensuite, ce gaz, quand on le brûle, il repart dans l'air. Et c'est pour cette raison que les calculs qui montrent que le biométhane, le biogaz, est mieux pour l'environnement, ne prennent jamais en compte la combustion du méthane. L'idée, c'est qu'on prend du carbone dans l'air, on le met dans la matière, on récupère ce carbone et on le renvoie dans l'air. Mais le problème, c'est que quand on regarde les études du GIEC, hein, ce groupement international de scientifiques, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, pour l'instant, on a hypothéqué pour plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années, notre capacité à emmagasiner du carbone. Alors là, je vais reprendre mes chiffres. Dans les chiffres donnés par le GIEC, si aujourd'hui, nous arrêtions totalement toute émanation de carbone, c'est-à-dire on arrête les voitures, les usines, on ne fait plus de méthaniseurs, on ne fait plus rien, on ne remet plus de carbone, hormis notre respiration, la respiration des animaux, etc. Il nous faudrait à peu près 200 ans pour qu'on revienne au taux de carbone au début de l'ère industrielle. C'est-à-dire 200 ans, on ne fait plus rien. Dans 200 ans, on a séquestré, enfin, on est revenu au niveau que l'on avait avant l'apparition du charbon et des trains à vapeur, etc. Et ensuite, pour revenir à un niveau normal bien avant l'ère industrielle, il faudra à peu près 2000 ans. Ça, c'est si on s'arrête maintenant. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible, il n'y a aucune solution. Alors, ce que suggère le GIEC, c'est que s'il y a des solutions, il y a des solutions qui sont déjà de réduire. Et là, ce qu'on reproche, nous, à la méthanisation, c'est que on continue à rejeter du carbone. On nous indique que c'est du carbone qui est séquestré par les plantes, ok. Mais c'est pas ça. Nous, on ne doit plus émettre de carbone pour que la nature puisse encaisser déjà le retard que l'on a. Parce que chaque fois qu'on en rajoute, on vient gripper un peu plus la machine. Alors, juste une information, donc notre taux de CO2 n'a fait qu'exploser. On a eu presque 50% en un peu plus d'une centaine d'années, je crois. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Ça, c'est important. Mais le plus alarmant, je revois le chiffre, 28% en 40 ans, le taux de dioxyde de carbone. Le plus alarmant, par contre, c'est le taux de méthane dans l'air. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a des études qui sont publiées dans des revues scientifiques internationales qui montre qu'en moyenne, il y a entre 3,8 et 5,8% de perte de méthane dans l'air, à partir d'un méthaniseur. Donc un méthaniseur perd entre 3 et 6% de sa production. Et quand on observe dans l'atmosphère, le taux de méthane a augmenté de 17% en 40 ans. Il est devenu le deuxième gaz le plus polluant. Il est juste derrière le CO2. Donc en fait, notre effet de serre de notre planète est hélas en train d'exploser, et notamment parce que la production de méthane dans l'air est devenue ingérable, titanesque. Alors c'est beaucoup dû aux véhicules thermiques, mais la méthanisation ne va pas dans le bon sens parce qu'elle perd beaucoup. Et pourquoi le méthane est embêtant ? C'est parce qu'une molécule de méthane entraîne un effet sur les gaz, enfin un effet de réchauffement climatique 25 fois plus grand qu'une molécule de CO2. Et ça, 25 fois plus, c'est le taux le plus optimiste. Il est calculé sur 100 ans, mais le méthane, c'est à peu près 15 ans dans l'air. Si on calcule sur 15 ans, en fait, on arrive à 75 ou 98. Donc prenons l'exemple du méthaniseur. Un méthaniseur, s'il perd 4% de méthane en prenant le taux le plus optimiste, il perd 100%. Donc 4 fois 25, ça fait 100% du bénéfice écologique qu'il aurait dû avoir. Si maintenant on prend le vrai calcul, on arrive à 4 fois 75, on arrive à 280-300% de perte. Donc c'est là-dessus qu'on se pose la question, et qu'on pose la question au pouvoir public. On est allé la poser au niveau de l'Assemblée nationale deux fois, dans une commission sénatoriale une fois. On s'est rendu au ministère de la Transition écologique et solidaire. On a présenté ses arguments et on n'a pas eu de réponse. Le bénéfice est, pour à notre avis, mal calculé. Il faut prendre tous les éléments en compte et nous pensons qu'il y a des raccourcis qui ont été faits et qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale sur ce calcul.
Et ces raccourcis, pourquoi ils ont été faits ? C'est pour accélérer la méthanisation ? Pour accélérer le développement de cette source d'énergie renouvelable, entre guillemets, et verte ?
Alors, ça,
je souris, hein, pour ceux qui ne nous voient pas, je souris en disant ça. Hein.
Alors moi aussi, alors, ça c'est les intentions que vous prêtez à ces gens. Moi je regarde d'un côté factuel, je ne m'explique pas pourquoi un tel écart. Après les motivations, je laisserai poser la question à ces personnes.
D'accord, mais vas-y, Sylvaine.
Il me semblait bien aussi que les Allemands s'orientaient vers un arrêt de la méthanisation. Est-ce que tu as des informations ?
Alors oui, en fait, c'est une information qu'on donne toujours. En fait, en 2012, l'Académie des sciences Leopoldina allemande a donné ses conclusions sur les bioénergies. Et dans ses conclusions, elle dit quoi ? En 2012, elle dit que les bioénergies doivent se limiter à des formes, déjà, qui n'émettent pas de carbone, mais surtout qui les réduisent énormément par rapport à ce qu'il y avait avant. Et là, on voit que le bilan pour la méthanisation est tout à fait discutable. Mais surtout, et ça, c'est un problème qui s'est invité chez nous actuellement, ce problème, c'est la concurrence. Dans ce problème de concurrence, et ce que dit déjà en 2012, cette Académie des sciences allemandes, elle dit qu'ils ont observé sur le marché allemand des tensions. C'est-à-dire que les méthaniseurs prenaient de la matière et ça se faisait au détriment de la nourriture animale et de la nourriture humaine. Et donc, ça a fait monter les prix. Tout simplement, il y a une compétition, hein, on est dans une loi de marché.
Et puis aussi le fait de cultiver pour nourrir les méthaniseurs.
Alors, effectivement, la compétition peut avoir plusieurs liens, ça veut dire à l'achat, mais aussi simplement à l'existence de ce qu'il y a sur les sols. C'est-à-dire que, par exemple, vous trouvez des semences maintenant qui sont dédiées à la méthanisation, qui permettent à ce que, déjà, vous pouvez nourrir le méthaniseur qu'avec ça. Ensuite, c'est des semences aussi qui permettent de nourrir les animaux, mais c'est optimisé pour que les animaux ne produisent pas trop de méthane et que le carbone reste dedans, d'accord ? C'est des semences modifiées. Donc la bouse contiendra plus de matière fermentescible après par les archibactéries.
Vive la bouse de vache.
Donc il y a toute une biotechnologie qui se fait autour. Mais pour en revenir à ce système de compétition, les Allemands en 2012, ils ont bien vu ce que ça générait, les cultures dédiées à la méthanisation. Ensuite, il existe des cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est-à-dire des choses qu'on va planter entre deux cultures, donc qui vont prendre encore plus de carbone parce qu'on fait un assolement, enfin des cultures vont tourner de plus en plus, donc on vient pomper un peu plus. Et voilà, déjà dès 2012, ils s'étaient aperçus qu'il y avait ce problème-là. Et donc, ils ont décidé de ne plus subventionner. Toutes les installations qui étaient là, hein, c'était plus ou moins la clause du grand-père, elles continuaient à avoir les financements qu'elles avaient, mais ils ne finançaient plus de nouvelles. Les nouveaux n'avaient plus accès aux subventions, et donc, au final, c'est en train de s'éteindre. Et d'ailleurs, vous avez bien entendu les Allemands parler sur les ondes des radios d'information. Eux, ils misaient tout sur le gaz russe. Ça leur pose problème maintenant.
Oui, évidemment.
Mais jamais ils n'ont dit qu'ils retourneraient à la méthanisation. Ça n'a jamais été envisagé. Pour eux, c'était pas louable, pas vivable. Et très simplement, on regarde la France. Hein. S'il nous fallait un méthaniseur tous les 2,5 km, hein, c'est-à-dire qu'au bout des Champs-Élysées, il y a un méthaniseur, au milieu, il y en a un, et à l'autre bout, il y en a un autre. D'accord ?
Oui.
Donc, c'est pas viable.
Même seulement autour de Reims, on a déjà... Je pense à un méthaniseur Bogenfren, un méthaniseur en projet ou en démarrage de construction à Bethny, un à Puisieux, un à Cernay, et c'est aussi à Bazancourt. Il y a un projet à Pomac aussi, j'ai entendu.
Alors oui, il y a un projet entre Pomac et Bazancourt. Il y a un projet entre Saint-Étienne-sur-Suippes et Bou-sur-Suippes. Il y a un méthaniseur sur Varmerieville. Il y en a un second, je crois, qui déclenche. Il y en a un qui était vu au niveau de Paumacte, près de Corrèle aussi, enfin c'est la commune de Corrèle, etc. etc. Je ne les connais même pas tous.
Mais on se demande où vont-ils trouver de quoi alimenter tous ces méthaniseurs.
Alors, pour les alimenter, les méthaniseurs, ici, il y a des industries. Ils veulent récupérer plus souvent la matière industrielle pour la mettre dans les méthaniseurs. Alors, il y a des subtilités de loi qui font que cette matière n'est pas considérée comme industrielle, mais comme c'est des coopératives, elle est considérée comme appartenant aux agriculteurs. Ça permet d'avoir en fait des évasions fiscales, pas des évasions fiscales, c'est des mécanismes d'allègement fiscaux. En fait, une installation agricole ne paye pas d'impôts locaux, zéro. Il n'y a pas d'impôt sur ce qui est produit, il n'y a pas d'impôt sur le foncier non bâti, il y a une exonération totale de contribution foncière d'entreprise. En fait, un méthaniseur ne rapporte aucune taxe locale, aucune, zéro. Les seules taxes qui sont perçues le sont faites par l'État au titre de la production énergétique. Et là encore, ça pose des problèmes. Une éolienne, alors, les éoliennes, je ne suis absolument pas favorable aux éoliennes. Les éoliennes, elles rapportent au moins à peu près 8 000 euros par éolienne par an aux communes. Et en fait, comme les communes se font assécher de plus en plus financièrement, avec des DGF qui sont de plus en plus faibles.
DGF.
C'est l'argent qu'on leur alloue chaque année. J'ai oublié ce que veut dire D, mais c'est général de financement. Donc c'est l'argent qui est accordé chaque année par l'État aux communes. Mais on voit qu'elles font comme une peau de chagrin, et les communes cherchent de plus en plus à diversifier leur rentrée d'argent.
Dotation globale de fonctionnement.
Ah voilà, dotation globale de fonctionnement, merci, j'avais oublié le terme. Donc c'est assez inquiétant parce qu'au final, petit à petit, les communes vont avoir de moins en moins de choix pour se financer. Et au final, c'est uniquement des structures privées qui vont venir donner cet argent pour les financements. Alors pour l'instant, la méthanisation n'a pas à payer de taxes locales. Je suis persuadé que bientôt, on leur demandera un 0,01% de leurs bénéfices comme taxe locale, quelque chose comme ça, pour que les communes puissent accepter.
Mais quel intérêt ont alors, dans ce cas-là, les communes à accepter la construction d'un méthaniseur ?
Pas quand les agriculteurs se trouvent dedans. Le plus souvent, la commune n'a que peu d'intérêt de créer un méthaniseur sur sa commune. Alors en général, les communes les plus exposées à l'installation de méthaniseurs sont celles qui ont des lignes de transport de gaz ou de distribution de gaz. Tout simplement parce que maintenant, les subventions ne sont données qu'aux méthaniseurs en injection, c'est-à-dire ceux qui vont produire du gaz qui sera envoyé sur le réseau. Parce qu'il existait avant des méthaniseurs en cogénération, il existe toujours, c'est-à-dire que brûle le gaz dans des turbines et ensuite ça envoie de l'électricité, ça crée de l'électricité qui est envoyée dans le réseau. Donc une commune a peu d'avantages, on pourrait parler de l'emploi, mais comme je vous ai dit, 680 000 euros de subventions en moyenne créent un emploi en moyenne, en France. Ça semble un peu beaucoup hein, quand on voit comment des aides de l'État fondent comme peau de chagrin, justement, sur l'emploi. Hein. Après, ça, c'est que mon opinion. Je m'interroge beaucoup hein, quand on vient rogner sur 5 euros d'aide au logement. On peut se poser la question de tout ça. Enfin, voilà, j'ai du mal à saisir un schéma. Alors, évidemment, on ne peut pas opposer. Il y a une création de gaz, effectivement, il faut le reconnaître. Il est là, ce gaz. Mais à quel prix ?
À quel prix ? Parce qu'en plus, si on a dû faire des cultures intensives avant, charger tout ça dans les camions pour alimenter, est-ce que l'énergie qu'on a produite, est-ce qu'elle est supérieure à toute l'énergie qu'on a dépensée au départ pour produire la matière première ?
Alors, techniquement, oui. Elle est plus grande entre ce qu'on dépense et ce qu'on récupère. Par contre, ce qu'on appelle le taux de retour énergétique, il est très faible. Si on calcule l'équilibre, le taux de retour énergétique, c'est-à-dire ce que je dépense et ce que je récupère. Si on prend le nucléaire, on peut le critiquer. Hein, il y a une publication de 2013 qui a fait les calculs. Le nucléaire vous donne 75 fois plus d'énergie que vous n'en avez consommé pour obtenir cette énergie. Ça prend en compte la fabrication de la centrale, son exploitation et sa destruction, son recyclage. Alors bien évidemment, tout ce qui est recyclage de centrales nucléaires, ça reste encore théorique. Si on prend l'hydraulique, on est à peu près à 49. Pour le charbon, on est à 30 de taux de retour énergétique, c'est-à-dire qu'il faut à peu près fournir... Le charbon nous donne 30 fois plus d'énergie que ce qu'on en a consommé. On est à 19 pour le solaire et à 9 si jamais on veut accumuler l'énergie solaire. Pour l'éolien, on est entre 16 et 4 si on garde. Et pour la biomasse, comme la méthanisation, on est à 4. Si on prend le photovoltaïque solaire, enfin le photovoltaïque, oui, c'est solaire, on est entre 4 et 2. Donc, ce qui a été publié, c'est qu'une énergie n'est rentable qu'à partir d'un taux de retour énergétique de 7. C'est-à-dire que si vous fournissez 1 en énergie, il faut que vous en récoltiez au moins 7. Et tout ce qui est biomasse est en dessous, elle est autour de 4, voire moins. Ça, c'est la quantité d'énergie. OK, vous en recevez plus, mais vous n'en recevez quand même pas suffisamment. Ce qui fait qu'au final, vous avez besoin d'être perfusé par les subventions.
Est-ce que tu as des indications sur le prix payé par le gaz qui est injecté dans le réseau par GRTF aux producteurs ?
Alors, il y a la loi sur le secret des affaires. On n'a pas à connaître ce genre de prix, surtout qu'il est très fluctuant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une loi sur la baisse des subventions. Alors, cette loi, ça s'appelle la loi pluriannuelle de programmation de l'énergie, la PPE. Les tarifs que l'on avait, c'était 100 euros du mégawattheure. Et en fonction de la loi pluriannuelle de programmation énergétique, ça devait tomber aux alentours de 2028 à peu près à 60 euros du mégawattheure, sachant que le tarif de gaz naturel était autour de 27 euros. Alors, mais c'est évidemment avant la crise en Ukraine, avant la baisse des quotas pétroliers, etc. Enfin, voilà, y a plein de choses qui interviennent là-dedans. Néanmoins, un méthaniseur habituel, on va dire à 50-60 tonnes jour, va produire environ 500 mètres cubes de gaz à l'heure. D'accord. Donc ça donne une idée approximative de combien ça rapporte. Un agriculteur qui avait ce type de méthaniseur m'a dit un jour, enfin je lui ai posé la question, hein, ça vous fait 3 000, 4 000 euros par mois, etc. Et il m'a dit non, beaucoup, beaucoup plus. Voilà, je n'ai pas, après, il y a la loi sur le secret des affaires, je ne connais pas son contrat, je ne saurai jamais. Mais cette personne m'a dit gagner beaucoup, beaucoup plus, okay. En bénéfice net.
Ça va être la dernière question. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on voulait tourner notre émission dessus, on en a très peu parlé. C'est qu'on a parlé beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent en jeu, et on voulait parler contestation du projet, et tout à l'heure tu as bien dit que c'était compliqué de faire des démarches auprès des politiques et autres. Et donc moi ma question c'est, en combien de temps émerge un projet de méthanisation ? Parce qu'on se doute bien que s'il y a autant d'argent, est-ce que c'est des projets discrets ? Est-ce que ça émerge d'un coup ? Est-ce que c'est caché ?
Tout va dépendre de la personne qui veut faire le méthaniseur. Soit elle en parle avant, et là, en général, ça se passe bien. Soit elle attend le dernier moment, et là, en général, ça se passe mal, voire très mal. Alors, il y a... en général, je vois pour le projet de méthanisation qui est juste sous ma fenêtre, il a été projeté en 2012. Les agriculteurs sont regroupés en association. Ensuite, en 2016, ils trouvent un terrain sur une commune, hein, près du pôle industriel, enfin même là où elle est basée. La commune refuse, parce qu'ils sentent que les gens ne sont pas prêts. Ils vont à la commune à côté, ils refusent. Et puis, ils vont à la commune où j'habite. Et puis là, la personne accepte. Après, se trouve le lieu. En fait, apparemment, les gens ne voulaient pas vendre des terres. Et puis, ils ont réussi à s'arranger, à trouver une ou deux personnes. Voilà, ils ont réussi. Il y avait un groupement, d'ailleurs, qui devait fournir des terres à un agriculteur, enfin, aux agriculteurs qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des terres. Et voilà, par un jeu d'action et de procuration de vote, ils ont réussi à mettre la main sur les terres. Alors, ce qui était embêtant pour nous au départ, c'est là-dedans que je me suis senti concerné, c'était que c'était à côté de chez moi. Il fallait bien un déclic. Hein. Ensuite, j'ai découvert tout le reste. Mais d'abord, je m'y suis intéressé parce que c'était à côté de chez moi. Pour moi, j'étais parti sur quelque chose de bio, etc. Je ne m'inquiétais pas. Et vraiment, j'allais rien faire. Et en fait, un de mes amis, qui est conseiller municipal dans les Ardennes, on fait du tennis de table ensemble, et puis... Il me dit « Sébastien, inquiète-toi, parce que ce projet de méthanisation, il est énorme. On voit plein de méthaniseurs en Ardennes, mais celui-là m'a l'air énorme. Ça va impacter 42 communes. » Ah, bon, avec ma compagne qui est ingénieure de recherche, on se dit « Bon, on va lire le dossier. » Et là, on est effaré. En un week-end, on lit entre 250 et 1000 pages de documents à deux. On étudie, on va chercher des infos, etc. On passe 23 heures sur 24. Et là, on se dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Pourquoi on n'est pas au courant? Pourquoi on nous a pas parlé? Je vais voir mon voisin, qui est premier adjoint au maire. Je pose la question. Ils m'ont dit, ah non, c'est un petit truc, etc. Je lui dis, non, dans les documents, c'est pas ça. Et voilà, l'enquête commence, enquête publique. On décide, on étudie vraiment en détail tous les documents. On va chercher ailleurs, on va chercher des articles scientifiques, etc. Et on organise, on rencontre la municipalité de l'époque, et elle nous dit, cette municipalité, non, c'est très bien, vous inquiétez pour rien, etc. Ou alors, des fois, ils nous ont dit, ceux qui font le projet, ils ne nous ont pas toujours dit la vérité, etc. Bref, bon, c'est mitigé, mais rien ne se passe. Donc on décide d'organiser une séance publique dans laquelle on présente, nous, notre lecture. Et on présente. Il y a devant 300 personnes et les gens sont tous un peu effarés. Et la première question qui m'est posée, c'est « Mais depuis quand les gens savent ça ?» Et dans le dossier, je mets la main sur les actes de... Enfin, les promesses de vente des terrains et on voit que déjà dès 2016, on savait tout. Alors que là, on est en juillet 2018. En 2016, déjà, c'était acté le positionnement. Et on n'était pas au courant. Personne n'était au courant. Donc, Donc après, on rencontre les prescripteurs de projets. On leur trouve un terrain qui est un endroit apparemment plus acceptable, plus loin des habitations. On n'embête pas la commune à côté non plus. On ne met pas contre les voisins. On reste toujours les plus près du projet. Mais voilà, la personne est prête à vendre son exploitation, enfin ses terres, au même prix que ce qu'ils avaient. Comme c'est des promesses de vente, d'ailleurs, ils peuvent tout à fait les casser. Ce n'est pas un souci. Et on nous dit non. Non, parce que c'est comme ça. Ah, bon, on dit, on va faire un procès. Nous, on n'est pas d'accord avec ce positionnement. Donc, on avait créé une association parce que, attention, les riverains ne peuvent pas s'opposer à ça. Il faut qu'ils soient regroupés en association. Et attention, petite subtilité.
Non.
Il faut que l'association ait plus de un an d'ancienneté à la date de la connaissance du projet. C'est-à-dire que le moment où c'est devenu public le projet, il faut qu'elle ait déjà un an d'ancienneté. Et là, on est embêté. Et donc, on va démarcher France Nature Environnement. On discute avec les personnes et on voit que ça rejoint leur politique et nous. Et donc, on s'associe à l'aide aussi d'une quarantaine de riverains pour former un regroupement, pour faire une action collective. Alors, ça avance. Entre deux, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont développées. On fait des manifestations. Et... avant le procès, en fait, on s'est dit, il y a un mouvement populaire, il y a beaucoup de gens sont exprimés dans l'enquête publique. Et là, l'autorisation tombe. L'installation peut exploiter. Et là, je vous avoue, on ne comprend pas trop. Parce que tout ce qu'ont pu dire les citoyens s'est mis sous silence. Et c'est là qu'on décide d'attaquer. D'accord ? J'ai un peu devancé. Mais on s'est dit, si les gens ils sont tous contre, ça ne va pas avoir lieu. Et on demande juste qu'ils se déplacent de quelques centaines de mètres. La personne est prête à vendre, c'est dans les mêmes conditions et tout. Ça ne change rien. Ben non. Et en fait, on a appris plus tard que l'autorisation était déjà rédigée avant l'enquête publique. Et ça nous a posé quand même un sacré souci. C'est pour ça qu'on a voulu attaquer. Ensuite, je donne un peu la suite. C'est qu'on a perdu en première instance. Et quand on perd en première instance, on se pose la question, est-ce qu'on a tort ? Et en fait, à la relecture du jugement avec nos avocates, on s'aperçoit de la chose suivante. C'est que bon nombre de questions qu'on avait posées n'ont pas eu de réponse dans les jugements. Et là, on a décidé de faire appel. Il y a un appel qui est en cours. Il était en fin d'instruction. Alors, il y a eu plusieurs événements, dont celui qu'on a pu aborder. Et donc, on fait appel et on va voir l'issue de cet appel. En attendant, il y a des choses qu'on avait déjà reprochées dans le premier permis de construire, qui sont maintenant, une fois que le méthaniseur est construit, qui ont été opposées et qui ont entraîné la suspension de son permis modificatif à ce méthaniseur. Et au final, on l'avait dit en 2019 et en 2022, l'interdiction tombe. On veut du green, 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 green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du green. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre barres tout le temps.
des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du
d'un peu moins creusé.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 greenwashing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
Phosphate, des shampoings tout organiques.
Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques.
Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert.
Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
On veut du green, 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 greenwashing. On veut du green, 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 greenwashing.
Pour pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut du green.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer.
On veut du green, 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 greenwashing.
On veut des baleines et des thons.
On veut du green, 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 greenwashing.
C'est nous les astres.
On veut du green, 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 greenwashing.
Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Excusez-moi, je me permets de changer légèrement la conversation, mais après on reviendra. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est l'emploi. Alors il faut savoir que quand un éleveur ferme, c'est à peu près 10 emplois que représente un éleveur, si on prend toute la chaîne. Quand un céréalier ferme, c'est un peu moins de 1 emploi, en moyenne. Le problème, c'est que, vous avez vu ce qui fait plus de gaz, c'est les céréales. Ces céréales, on les mange, mais c'est plus rentable de les mettre dans le méthaniseur. Et donc, chaque fois qu'ils utilisent les céréales, ça fait monter le prix de la paille. Ça fait monter le prix de la nourriture animale. Et donc, les éleveurs ont de plus en plus de mal. Et la compétition, ils sont en première ligne. Et c'est dommage, parce que c'est eux qui font le plus d'emplois. Alors après, la viande, la pollution, etc. Oui. Mais si je regarde juste l'emploi, la disparition des éleveurs va créer un séisme, à mon avis... au niveau de la communauté agricole. Pourquoi ? Parce que déjà, il y aura moins de fumier, et les méthaniseurs ont besoin de ce complément d'azote pour fonctionner. Et deux, déjà que les agriculteurs représentent 2% de la population française, ben si on enlève, allez, j'allais dire, je sais pas, peut-être 40% des emplois là-dedans, ou 50%, ça sera encore pire. Et ça dissuadera les jeunes de venir s'installer. Donc ça, c'est vraiment un problème aussi au niveau de l'emploi. Cette compétition qui s'opère au niveau des intrants, parce que les agriculteurs, on en a besoin, je veux dire, c'est évident pour tout le monde. Mais si, entre eux, au final, ils finissent par se trucider et qu'il ne reste que les plus gros, qui au final sont en contrat avec des énergéticiens, honnêtement, je n'ai pas d'idée du modèle économique sous-jacent qui va être, enfin, qui va régir l'alimentation des enfants.
Devant la multiplication des installations de méthaniseurs, on est en France à entre 5, 7, 7,5 de kilomètres.
Ah ben on pourrait remonter le chiffre actuellement, on est à 10, je crois.
10, je ne sais pas.
Et ça devient...
Ceux qui ont projet, ce on était à 7,5, je crois, avec ceux qui sont en projet.
Alors, c'est moi juste... Là, la figure, je vais vous la mettre, parce que j'utilise beaucoup, beaucoup, elle est tellement claire, si jamais j'arrive à la rattraper. Désolé, il y a beaucoup de diapos, il faut que je m'y retrouve. Là, c'est là. Voilà. Donc, actuellement, en France, si on prend en surface agricole utile, c'est-à-dire qu'on enlève les routes, les villes, les montagnes, etc., on se retrouve avec un méthaniseur, tout, et 15 km. Mais avec les projets qui sont actuellement en cours, on monte à 2250 méthaniseurs, on en est un tous les 11 km de SAU. C'est-à-dire que chaque méthaniseur est à 11 km de son voisin.
D'accord.
Et est-ce que dans le...
Non, mais t'as, oui, au double, 22, c'est ça. 11 km, il a un carré de 11 km pour lui, autour de lui, c'est ça.
Et est-ce que dans toutes ces installations-là, les agriculteurs, voire les gaziers, ont l'obligation, en cas de démantèlement, d'évacuer toutes ces usines à gaz de notre paysage rural? Alors,
comme le dit l'Adréal, tout est prévu. Et j'aurais dit, mais pourquoi?
Ça me rassure.
Pourquoi un représentant de l'Adréal m'a dit ça en réunion une fois? Tout est prévu, on a l'habitude, quand une industrie ferme, on sait toujours comment récupérer l'argent pour qu'il démantèle du gaz. Je n'ai pas cette impression. C'est pour ça que pour les éoliennes, il y a des provisions qui sont données pour démanteler la partie visible de l'éolienne, d'accord? Pas la partie souterraine, tout le monde en parle. Pour le gaz, j'ai dit, mais pourquoi il n'y en a pas? Et là, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas besoin, de toute façon, ils arriveraient. Voilà. Donc, j'ai peur, hélas, que les collectivités locales, une fois de plus, seront mises à contribution pour pouvoir démanteler ces structures qui, comme on l'a dit, contiennent un certain nombre de choses qui sont, peuvent être polluantes à terme.
Et s'ils n'ont pas les moyens, le fond.
Les collectivités locales, à mon avis, bon, on a vu assez de friches. Hein. Reims, ce n'est pas une ville pauvre. Hein. Le nombre de friches qu'on a vu en déshérence, ou parfois des choses qui s'écroulaient un peu, enfin il y avait un danger. Bon, après il y a des raisons, comment dire, juridiques à ne pas faire les choses. Mais il y a des choses où vraiment les petits-enfants des héritiers n'étaient toujours pas là.
Mais pour rebondir un peu sur les friches, le problème des friches industrielles, beaucoup, c'est que c'est des sites pollués.
Oui, après il faut payer
la dépollution. Il faut attendre 15, voire 20, si ce n'est pas 25 ans avant de reconstruire. Hein.
Car la nature peut dépolluer elle-même.
Donc on se rend bien compte qu'on fait de la culture dédiée pour alimenter les méthaniseurs. Est-ce qu'on a déjà fait une étude sur l'évolution du prix de cette matière première en fait? Parce que maintenant la culture est devenue une matière première. Et est-ce que le prix a augmenté ces dernières années? Est-ce qu'il y a un marché qui est en train de se créer? Alors, dessus,
le problème, c'est décorréler l'effet de la méthanisation là-dedans et de la concurrence. Alors, quand vous demandez aux agriculteurs à des endroits précis, par exemple, j'avais ouï dire, d'un agriculteur dans la région de Cézanne qui, lui, ne trouvait plus de fourrage à cause des méthaniseurs. Donc, ces cultures dédiées, au final, faisaient qu'elles piquaient la paille, piquaient le fourrage aussi. Il n'y avait plus. Et donc, il devait demander des subventions pour acheter du fourrage et de la paille à ces bêtes pour contrer l'augmentation du prix due aux méthaniseurs qui avaient des subventions pour acheter la matière première sur un gaz subventionné, sur une installation subventionnée. Donc au final, on s'aperçoit que la subvention génère de la subvention. Chaque euro donné en subvention va nous demander de donner peut-être 1,50 € ailleurs. Et ainsi de suite, on part dans un cercle malheureux. Sinon, pour le prix du blé, par exemple, ou du maïs, les prix ont flambé. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des années de sécheresse. Il y a des coins du monde, hein, on ne parle pas trop de l'Inde, du Pakistan, de la Chine aussi, qui ont eu... C'est des gens qui mangent aussi. Hein. Ils ont eu de grandes sécheresses, ils vont demander plus sur le marché international. La guerre en Ukraine, bien évidemment, est citée. Les pays d'Afrique, où il y a déjà des famines, ça commence déjà, alors que l'effet devait se faire sentir dans une douzaine ou quinzaine de mois encore. C'est déjà, le drame, il est déjà là. Donc, là, à mon avis, on n'est qu'au début de l'augmentation du prix des matières premières. Je ne suis pas expert en matières premières, mais j'ai qu'à voir comment le prix du blé a flambé. Je crois qu'il est monté à plus de 500 la tonne, je ne sais plus. Je crois que le maïs, c'est le colza qui a dépassé 2000. Je suis désolé, hein. J'ai vu ces chiffres passer, après je ne les retiens pas parce que je ne suis pas commercial dans le domaine, mais ça a crevé le plafond pour le maïs. Ça a crevé le plafond pour le blé. Les États viennent réguler parce que ça amène des tensions dans les pays. Donc je ne sais pas. On en reparlera et on verra la contribution de la méthanisation que je ne connais pas et que je ne sais pas découvrir. Oui.
Mais pour là, c'est de la pure spéculation, puisqu'il y a des stocks qui sont faits régulièrement pour permettre au prix du blé, au prix du maïs, d'augmenter d'une façon.
Le problème de la spéculation, c'est la spéculation. La payer. Et tout mécanisme qui génère une spéculation, parce qu'au final, je donne des subventions à des gens qui vont me faire payer indirectement, peut-être, le prix du blé plus cher. Donc je me retrouve embêté. Et au final, me faire payer plus d'impôts parce qu'il y a des subventions aussi. Donc, même s'il y a beaucoup de spéculation, au final, moi je sais que ce que je vais payer, je sais que je vais payer plus. Mais c'est pour ça que c'est dur de décorréler la part de la méthanisation.
Avec l'augmentation du prix des matières premières, et puis aussi le maillage du nombre de méthaniseurs, on vient de voir hein, tous les 11 km, et on voit bien la difficulté qu'ils auront, la compétition qu'il y aura pour les intrants. Et en rapport avec les 45 km qu'ils devraient respecter pour les intrants et les 30 km pour les épandages, dans la vidéo, on parle de méthaniseurs dont le digesteur monte à 40-45 degrés, je crois. Hein ? On ne fait pas allusion au digesteur qui monte à 70 degrés,
C'est la phase d'hygiénisation. C'est ouais. Quand ils veulent utiliser des carcasses de viande,
voilà,
etc.
C'est là où je veux arriver.
Une matière comme ça, il faut qu'ils dépensent beaucoup d'énergie pour hygiéniser. Alors ouais. Ça, ils n'aiment pas trop le faire.
Non, c'est fait par les sociétés.
Mais parce que les sociétés spécialisées, ça peut se faire aussi. Mais...
Dans la presse, tu parles de méthanisation sur Google ou en ligne, on en parle beaucoup en ce moment, c'est que ils vont se tourner vers justement d'autres intrants. Donc, les carcasses,
les huiles alimentaires.
Les écarissages et aussi les bassins de décantation.
Alors, écarissage, c'est embêtant pour eux, mais l'huile alimentaire, par exemple, ça, c'est beaucoup plus rentable.
Oui, mais là, on n'a pas la condition sine qua non de dire qu'il faudra, pour ce traitement-là, alors que immanquablement, même des petites unités de méthanisation vont le faire, ça. Et ils tourneront à 45 degrés au lieu des 70 degrés préconisés. C'est un risque.
Personne ne sera là pour vérifier, c'est ça l'embêtant.
Il n'y a personne
pour
vérifier.
Attention, les digestats qui sont épandus ne sont testés normalement qu'une fois par an. Il y a un prélèvement par an qui est contrôlé à la charge de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand il l'aura fait. Il va peut-être choisir ce lot-là ou tel autre. Et c'est une fois par an qu'il doit vérifier. Et je crois en plus, c'est au début, après, il ne le fait plus.
Moi, pour l'hygiénisation, en général, c'est les sociétés annexes. C'est pas les méthaniseurs qui font ça. Moi, mon voisin, un méthaniseur, il ramène des intrants pompables qui arrivent par citerne. C'est-à-dire qu'il y a une société spécialisée qui fait que ça. Il fait du ramassage sur la région parisienne, des McDo, des restos, des machins, etc. Tout ça comme ça. Et il y a des boîtes spécialisées là-dedans. Je vois pas beaucoup d'agriculteurs, même avec leur système, se monter des hygiéniseurs à monter 70 degrés. Ça leur coûtera trop cher. Ils sont déjà pas prêts à mettre des bâches sur les bacs. Je vois pas. Et je pense que s'il fait ça, parce que par moi il n'a pas assez d'intrants, c'est parce que ça lui couvre son problème de production globale, lissé globalement sur l'année. Des fois il y a deux camions par jour, des fois il n'y en a pas pendant deux jours, et il tape dans son stock en fonction de ce qu'il a. Mais ils sont faits, à ma connaissance, pour beaucoup à l'extérieur. Pas sur le site, mais à l'extérieur.
Je pense qu'il y aura beaucoup de méthanisation qui va tourner en forager.
Et à ce moment-là, ils vont crever.
Ben oui, ils vont crever, oui. Donc, ils pourraient être tentés de...
Pardon ?
C'est
des stations d'exploration.
Non, c'est des matières, des restes de restaurants, de McDo, de machin, enfin tout ce qui est résidus comme ça, qui sont hygiénisés. Et qui sont ce qu'on appelle après des intrants pompables, c'est-à-dire que ça arrive en citerne et c'est mis directement dans le. Oui. C'est mis par raccord pompier directement dans le méthaniseur.
C'est justement,
il y a des citernes. Des intrants pompables. Mais ça, après, il faut voir aussi dans sa déclaration de construction à quel type d'intrant il a droit.
Parce qu'il y a des fois, dans la journée, il y a 7-8 camions qui viennent comme ça, avec des gros trucs derrière pour.
Ah non, ça c'est peut-être pour le digestin.
Je ne sais pas, justement, je me pose la question si c'est dans un sens ou dans l'autre.
Soit c'est faut voir quand est-ce qu'il a plat.
Soit c'est des... J'essaie de pousser sur la route, ça fait du
bruit. Il faut avoir la suspension. Parce
que au mois de juin, pendant une semaine,
je ne sais
pas,
un
camion qui n'ont pas arrêté de faire des allers-retours.
Ah, c'est des citernes, comme pour la livraison de carburant. Mais ça, après, il faut savoir, parce que quand il est déclaré en ICPE, il a une liste des intrants autorisés. Est déposé et il faut voir là-dedans s'il a droit aux intrants hygiénisés ou pas. Parce que ça fait partie d'une classification particulière. Mmh. En général, quand ils sont à moins de... Enfin, quand ils démarrent et qu'ils sont au tout début pour justement pas avoir de contrôle ni rien du tout, ils prennent pas. C'est quand ils grandissent qu'ils passent aux intrants pompables. C'est-à-dire dans les 2-3 ans, quand ils passent à je ne sais plus combien de tonnes à l'année, là ils en prennent.
Je veux dire qu'on le contrôle.
Mais c'est à moins de contrôler tout.
On pourra mettre tout ce qu'on veut en entrant.
Surtout si on ne mesure pas.
C'est pas on pourra, ça se fait déjà.
Il y a un point spécifique à la Marne, peut-être qu'on n'a pas évoqué, c'est que dans la Marne, on a énormément d'intrants. On a des industries agroalimentaires, des intrants avec beaucoup de carbone, justement. Et on va avoir un problème, par contre. On va pouvoir beaucoup méthaniser. Par contre, pour étendre, on va manquer de terre. Parce qu'on veut méthaniser tellement que pour les pondages, c'est très embêtant. Donc attention au surépandage.
Oui, mais après, vous faire la séparation de phase et vous faire du digestat, puisqu'ils voulaient faire passer le fait que le digestat soit un engrais pour pouvoir y compris l'exporter. Mm-hmm. Donc ils vont se faire des granulés, ils vont virer le reste, et puis c'est comme ça qu'ils vont régler leur problème d'épandage.
Ils vont continuer, de toute façon, ils surépandent. Hein. Globalement, c'est ça, c'est pour ça qu'on a une eau globalement polluée, hein, ouais. Surtout sur le Grand Reims. Oui, monsieur.
Vous, en fait, maintenant, je vais faire la différence entre les produits. En fait, dans l'absolu, c'est des déchets qu'on devrait métalliser.
Le déchet vrai. Quel est le déchet vrai?
Alors que les produits, un produit qui peut être utilisé autrement, qui peut être détourné, qui était déjà bien utilisé, mais qu'on détourne en métalliseur, moi, je vais m'en servir.
On peut de la nourriture.
Dans les différentes commissions, on peut intervenir.
Alors, moi, je vous donne un exemple. Ma compagne, elle travaille dans le domaine agronomique, et elle a pour but, elle travaille pour fabriquer ce qu'on appelle des bioplastiques, c'est-à-dire à partir de paille, ben, on fait agir des enzymes, qui sont naturelles d'ailleurs. On les fait agir dans certaines conditions, puis ça fabrique un plastique fait par la nature, et puis qui est biodégradable après, et à 100%. D'accord ? Il y a des possibilités, par exemple, pour la paille, pour faire autre chose. Il y a des gens qui voudraient fabriquer du sucre, pas à partir des betteraves, mais directement à partir de la paille. Elle est pleine de sucre, mais c'est des sucres complexes, des chaînes longues, comme on a parlé, que seuls les champignons savent dégrader. Mais si on était capable de faire du sucre avec de la paille, vous imaginez, avec une motte de paille, le paquet de sucre qu'on ferait, ça serait énorme. Plus besoin de betteraves, plus besoin d'épandage, etc. Donc il y a plein de possibilités de réutiliser la matière qui est autour de nous. Elle n'est pas encore assez exploitée. Et j'ai peur qu'hélas, ce modèle économique actuel ne cherche pas trop à faire naître ces diversifications. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on pourrait faire plein de choses, sûrement.
Parce que pour la paille, la Confédération paysanne a fait une lettre au ministre de l'Agriculture, puisque la FNSEA ne bougeait pas, lui demandant d'interdire la paille et les fourrages, de les interdire à la méthanisation, parce qu'il y avait des paysans, des éleveurs qui manquaient de nourriture pour leurs troupeaux. Et on n'a rien entendu en retour, mais on peut penser que ça ne sera pas entendu par le ministère de l'Agriculture.
C'est l'entrave à la liberté commerciale. Hein, c'est comme si vous interdisez un pharmacien de prendre du paracétamol. Il a son choix. Il choisit de vendre. Un pharmacien a le droit de vendre ou pas des préservatifs. Il pourrait être contre le préservatif, par exemple, parce qu'il y a eu une époque, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y en a qui ne voulaient pas. Okay. C'est un libre choix. Chacun a son libre choix de se fournir. Soit il y a une loi qui va légiférer contre ça, et ça m'étonnerait qu'elle sorte.
Il y a des lois, puisqu'il y a bien une loi qui dit que pour un agriculteur ne peut mettre que 15% de sa production dans un méthaniseur. Mais comme il n'y a pas de contrôle, et que c'est un cahier qui est à sa disposition, qu'il remplit à son gré.
Et qu'il y a la loi sur le secret des affaires qui nous empêche de voir le cahier. Ah.
Donc.
C'est compliqué. Les impôts, ils peuvent être lordés.
Je pense même que c'est trop maintenant.
Ah, ils peuvent. Ils peuvent venir contrôler tous les cahiers.
Les épandages qui ne seront pas surveillés sur des terrains qui sont déjà saturés.
Ils le paieront, mais à long terme.
Et la contamination des nappes phréatiques et la qualité de l'eau. La biodiversité.
Qui est en bassin, le Haut-de-Seine-Normandie, tout le bassin, là, elle n'est pas très bonne, je pense.
Voilà. C'est la mort du vivant. La mort du vivant.
Et ça s'invite dans notre économie. Hein. Le Grand Reims, là, il va devoir dépenser des dizaines de millions d'euros à l'échelle de 2 ou 3 ans pour mettre des épurateurs sur le système de flotte.
Bah, oui.
Parce que l'eau au robinet, elle est trop polluée sur le Grand Reims. Hein. 51% des captages du Grand Reims sont en mauvais état. Et d'ailleurs, le plus gros captage du Grand Reims, c'est celui où le méthaniseur à côté de chez moi est construit. D'accord. Et on met pile au-dessus de l'aire d'alimentation de captage. Donc, voilà, la vie est belle, ça va bien aider les choses. Hein. S'il y a le moins de problèmes, on perd un verre d'eau sur 4 du Grand Reims.
à cause de ce problème. Donc, je comprends pas toujours la logique derrière, mais elle est là. Je suis sûrement trop bête hein, pour comprendre tout ce qu'il y a. Je suis persuadé que, bon, globalement, je pense qu'on va rencontrer des politiques, il n'y a pas de méchanceté. C'est que les gens, ils font avec ce qu'il y a. D'accord ? Bon, en même temps, je suis sûr qu'il y a d'autres solutions, mais il faut qu'ils acceptent de les écouter. Oui, pardon ?
Vous voulez voir en commission ce qu'ils disent ? Ils comprennent ce que vous dites quand même.
Ils vont jamais nous dire non.
Non, mais je sais. Mais
ils vont jamais nous. Non.
Mais ils pourraient nous dire. On n'était pas au courant, et là, effectivement, on pourrait comprendre. Mais quand vous, spécialiste, vous leur apportez les précisions, c'est un professeur qui dit que la mutualisation, c'est dangereux. Je veux dire, on l'entend, ça.
Oui, mais.
On est basique et on l'entend.
Donc, alors. Politique, c'est pas... Non, parce que nous, on est concernés. Hein. On l'entend parce qu'on est concernés. Moi, avant qu'il y ait un méthanisateur... Non. Moi, je ne suis pas tout d'accord. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont bien dans leur tour d'ivoire, qui ne voient rien du tout. Moi, j'étais concerné par la méthanisation en 2014, donc dans les précurseurs. À l'époque, il n'y avait aucune documentation. Il fallait aller les chercher en allemand, parce que c'est les seuls qui savaient les faire. On avait beaucoup de mal. C'est un peu pour ça que j'ai milité après, parce que je me suis dit, les pauvres, maintenant, s'ils doivent trouver ce qu'ils doivent trouver, alors que vu le mal, comment j'ai missionné pour trouver. Mais non, mais les politiques, ils font un, du court terme, et deux, je pense qu'ils ne sont pas conscients du problème. Tant que vous n'êtes pas à côté d'un méthaniseur et que vous n'avez pas vu ce que c'est, et que ça ne vous est pas dans le nez, et que vous n'avez pas vécu à ne pas pouvoir ouvrir vos fenêtres, avoir des problèmes à tous les niveaux chez vous, avec vos enfants, des problèmes de couple, parce qu'à un moment, ça devient très difficile à vivre, parce que c'est le voisin qui vous emmerde, et ben vous n'êtes pas totalement concerné. Moi, j'ai des gens au bout du village, ils s'en foutent. Vous pouvez essayer de bouger, avoir un collectif, ils s'en foutent. C'est pas leur problème, ça ne gêne pas.
Vous allez trouver aussi des professeurs qui vont vous dire que c'est la méthanisation. Mais en général, ils travaillent sur leur bois. D'accord ? C'est comme ça que c'est prévu.
Et puis c'est du court terme, la politique.
L'INRA est favorable à la méthanisation. Et ils vont vous dire que c'est bien. Parce qu'ils ne prennent pas en compte, notamment, le fait que le biométhane est brûlé. Par exemple, c'est 60% de la pollution finale. Ils ne prennent pas en compte ça, parce qu'ils disent, de toute façon, les plantes vont rassimiler le CO2. D'accord ? C'est pour ça que chaque fois qu'on veut discuter avec eux, c'est pas possible. D'ailleurs, ils vont globalement pas discuter avec nous. Ils disent, non, voilà. Donc il y a une grosse politique de recherche sur la méthanisation. Je vous garantis que si je déposais un projet de recherche en disant, je veux chercher à savoir les polluants générés par la méthanisation, je n'aurais zéro crédit. On me donnerait à l'appel d'offres rien du tout.
La première des choses, c'est qu'il y a des élections tous les 5 ans. Tous les 3 ans, et la voix des écolos, elle compte tellement qu'ils ne vont surtout pas dénoncer le système qui leur permet d'être élus. Allez dire à la télé que vous êtes contre la méthanisation. 80% des Français vont dire c'est une honte, on n'a plus de gaz russe et tout ça. Donc comme les gens sont sous-informés et puis que les politiques ils veulent les laisser comme ça, ils se servent de ça pour se faire réélire. Ils interdiront jamais les éoliennes, c'est un non-sens aussi à certains endroits. Bon, ils vont pas dire on va pas mettre d'éoliennes.
Mais l'histoire de la méthanisation suit l'histoire de l'éolienne. Parce que maintenant, il y a 300 et quelques sauces contre la méthanisation. Il y en a, là, actuellement, il y en a 2005, je crois, sur les éoliennes, 2005. Et voilà, l'éolien d'abord fait connaître de lui de manière positive. Puis après, on a découvert les problèmes, l'accumulation. Il faut voir qu'à certains endroits, dans ces années, vous pouvez voir 400 éoliennes quand vous faites un tour à 360 degrés. Hein. J'avais vu, je connais un peu les gens d'éoliennes. Ils m'avaient montré ça, bref. Voilà. Il y a toujours des travers, il y a trop d'excès, il y a trop d'argent.
Il y a énormément de politique là-dedans, de toute façon, c'est ça.
Ouais. J'ai envie de poser une question. Combien de personnes ont vraiment étudié à fond ce projet et puis là, dans sa continuité? Et combien de temps avez-vous passé?
Alors moi, pour la méthanisation, ça me prend à peu près 20 heures par semaine depuis 3 à 4 ans. Tout compris, hein, que ce soit entre les procédures, etc. C'est très lourd. Quand on est associatif, faut tout faire nous-mêmes. Alors j'ai la chance d'être dans le milieu universitaire, donc je connais pas mal d'experts dans différents domaines qui m'apportent un soutien non négligeable. Et surtout, on s'est regroupés au sein de collectifs nationaux. On a un groupement de 30 scientifiques, hein, c'est quasiment une équipe de recherche qui s'intéresse à charge et à décharge, hein, je dois bien le dire. Sur tout ce que recouvre la méthanisation.
C'est un énorme travail.
Ouais. Je suis désolé, on doit s'arrêter.
Écoutez, je vous remercie de m'avoir convié. J'espère que ces informations vous permettront de mieux comprendre un petit peu ce que implique la méthanisation, notamment pour les riverains. Alors, je ne parle pas du côté de ceux qui produisent, mais je parle plutôt du côté de ceux qui vivent à côté, parce qu'un méthaniseur va impacter tout un cercle autour, que ce soit par les camions, par la production, par les épandages, d'accord ? Et ce n'est pas du tout négligeable. Nous, on a observé qu'à peu près, enfin, d'après les signatures de pétition, on a calculé qu'à peu près en 2024-2025, il y a plus de gens qui ont signé de pétition contre la méthanisation qu'il n'y a d'agriculteurs en France.
Oui, mais en plus de ça, c'est vraiment... Ça ne concerne pas seulement les riverains, ça concerne tous les citoyens.
Ça concerne tous les citoyens. Déjà, un, par la production, enfin la consommation énergétique que nous faisons tous.
Bien sûr.
Et ensuite, pour la préservation du sol et de l'atmosphère. Bien nous sûr. Sommes tous légitimes pour défendre notre environnement.
Oui. Sébastien, merci. Oui. Sylviane, merci. Je vous dis à une prochaine.
À une prochaine. Merci encore.
Ciao.
Au revoir.
Moi, je me suis demandé quel nom je laisserais à mes enfants, et si jamais je me battais pas, il n'y a personne qui le fera à ma place. C'est ce que j'ai senti quand le méthaniseur s'installait contre les maisons. Je me suis dit, mais si je ne me bats pas, personne ne le fera. J'ai essayé. Je continuerai.